Les infiltrés, retrouvez l'émission tous les mercredis à 14h. Grâce au Minitel et à la prise Berry Télévision, retrouvez votre émission préférée de culture sur Antenne Noc.
En partenariat avec la Dinadi, l'espace jeune, le lycée Champollion et les services culturels de Grand Vigeac.
C'est génial.
Bonjour, bienvenue sur Antenne Doc dans la nouvelle saison des Infiltrés 2021 avec un nouveau groupe. Et aujourd'hui, on va vous présenter donc chacun un film. Et puisque dans les circonstances actuelles, on ne peut pas aller voir de spectacles vivants comme le théâtre, tout ça, on a décidé donc de chacun vous présenter un film. Et on va commencer avec Amel. Amel, quel est ton film ?
Donc moi, mon film, c'est Les 7 de Chicago.
Savez-vous pourquoi vous êtes jugé aujourd'hui ?
Le monde entier nous regarde ! Le monde entier nous regarde !
Ça va, toi ?
Ouais, ça allait avant de voir tout ça.
Le monde entier nous regarde ! Le monde entier nous regarde !
MLK est mort.
Le monde entier nous regarde !
Bobby Kennedy.
Le monde entier nous regarde !
Et Jésus aussi.
Le monde entier nous regarde !
Ils ont joué l'approche pacifique. Nous, on va jouer autre chose.
Le monde entier nous regarde ! Le monde entier...
Ces branlotins de la contestation menacent la sécurité nationale.
C'est une révolution. On pourrait en venir à faire de la peine à quelqu'un.
On va descendre la rue ! On va descendre la rue !
Le monde entier...
En venant à Chicago, aviez-vous l'espoir de vous confronter aux forces de police ?
Le monde entier...
Si ça demande réflexion, c'est mauvais signe.
Donne-moi un petit instant, frangin. C'est la première fois que je suis poursuivi pour mes pensées.
Le monde entier nous regarde !
Donc voilà, vous venez d'entendre la bande-annonce. Je vais essayer d'être précise et claire dans ce que je dis, parce que y a beaucoup de détails dans ce film. Qu'il ne faut pas rater. Donc du coup, ça se déroule durant la Convention nationale démocrate de 1968, donc sous le mandat de Bill Johnson. Donc à partir de ce moment-là, du coup, en gros, le film, il retranscrit, donc c'est une histoire vraie, il retranscrit un procès de 7 manifestants. Donc c'est des manifestants qui protestaient du coup après la mort de Bobby Kennedy, de Martin Luther King. Et du coup c'était pendant la période de la guerre du Vietnam. Donc du coup on voit très bien le procès, tout ce qui se passe et tout. Et comment dire, chacun a sa personnalité différente. Il y en a qui sont plus pacifistes, il y en a qui essayent d'aller au contact des forces de police parce que forcément, ils sont en procès par rapport aux manifestations qu'ils ont faites. Du coup, on voit différents côtés de personnalité de chacun. Et du coup, c'est super drôle à regarder. Donc, ça dure quand même 2 heures. Mais le film, on ne le voit pas vraiment passer. Et du coup, il est sorti en 2020, là, il n'y a pas longtemps. Et il a été réalisé par Aaron Sorkin. Et du coup, voilà. Donc moi, j'ai vraiment adoré ce film. Parce que déjà, ça montre bien la corruption flagrante du système judiciaire en Amérique. Et tout ce qui est dans le domaine de la justice, etc. J'aime bien. Après, oui, ça dure forcément quand même 2 heures. Donc c'est quand même quelque chose en termes de durée.
Ok. Voilà. Mais du coup, on suit le procès de cette personne.
Oui, en fait, au début, ils sont 8. Mais en fait, il y a un homme qui n'a rien à voir avec eux. Il n'a rien à voir avec eux. Il n'a pas d'avocat. Et du coup, pendant tout le procès, il répète qu'il n'a pas d'avocat, qu'il n'a pas d'avocat, qu'il n'a pas d'avocat. Mais le procureur, le juge, il s'en fout. Et du coup, au final, il a été son affaire à lui, parce qu'elle n'a rien à voir avec l'autre. Elle a été classée sans suite. Mais du coup, après, ils sont quand même 8. Mais dans la vraie affaire, ils sont 7.
Ok, d'accord. Ouais, ils sont jugés parce qu'ils ont causé des manifestations.
Oui, voilà. Oui, voilà. Okay. Et en fait, ils ont enfreint une loi qui disait que, qu'ils avaient traversé des États pour provoquer de la violence. Et du coup, ils essayent de montrer qu'ils n'ont pas été violents et que justement, c'était... que c'était les forces de police qui ont engagé toute cette violence qui sont c'est eux qui ont engagé tout ça et pas les manifestants. Donc du coup on voit comment dire c'est pas le procès un procès pendant 2 heures, c'est un procès avec des moments qui où on revient en arrière. Des moments de manifestation.
On voit le passé de chacun,
ouais,
tout ça, j'imagine.
Ouais, ouais, voilà. Ouais. On voit chacun à sa manière de penser, etc. Donc, c'est d'accord. Super intéressant.
Et, parce que du coup, c'est pour les droits des personnes noires, c'est ça? Qui manifestent, non?
Un peu. Non, c'est plus pour la guerre au Vietnam. Parce qu'en fait, au début du film, on voit du coup le président, donc B. Johnson, qui appellent de plus en plus de personnes avec leur date de naissance, etc., pour justement aller à la guerre au Vietnam. Et ben, ces personnes, elles n'ont pas envie d'aller faire la guerre. Et il y a eu plein de manifestations devant la Maison Blanche, du coup devant la Convention nationale démocrate, etc., etc. Voilà, c'était super intéressant.
Et est-ce que tu as un personnage préféré dans le film?
Alors oui, il y en a un qui se distingue... bien particulièrement des autres, mais après je m'en souviens plus du tout comment il s'appelle. Mais il a le sens d'humour vraiment, et c'est hyper drôle, vraiment.
Ok, ok. Okay. Personne d'autre a de questions, Lou?
Non.
Ok. Bon, mais du coup, on passe au deuxième film. C'est Elisa.
Donc bonjour, je vais vous présenter.
Salut Elisa.
Les choristes. On va écouter la bande-annonce.
Bonjour, je suis Clément Mathieu, le nouveau surveillant. Rassemblement !
Tout le monde à la cour ! Rassemblement !
Silence !
Silence !
Mais ils sont comment, les gamins, exactement ?
On vous a pas dit.
On dit pas ça ! Silence !
T'as vraiment une gueule de connard, toi ?
Qui est Monsieur Morange ?
Morange. Je parle pas beaucoup, mais faut s'en méfier. Tête d'ange, mais le diable au corps.
Monsieur, j'ai rien fait !
Ma
sœur ! Toi, t'es mort.
Ah oui ?
Monsieur Mathieu, action.
Réaction.
C'est peut-être mieux.
3 km à pied, ça use.
J'ai du bon tabac dans ma tabatière.
Je te nomme pupitre.
Quoi?
Je connais pas de chanson.
Une chorale.
Le problème, Morange, c'est que tu fais des choses qui ne te ressemblent pas.
Mais j'ai encore prouvé les graffitis, hein?
Alors à partir de demain, participation obligatoire à la chorale.
Debout.
Monsieur le directeur, les gosses n'ont plus d'eau chaude depuis 3 semaines.
L'eau froide, c'est très bon pour la circulation. Sortez.
J'ai pas dit à ta mère que t'avais été puni. Je lui ai dit que t'étais chez le dentiste. Ne me trahis pas.
Au fait, Mathieu, finis la chorale.
Et monsieur le directeur...
Merci, monsieur Mathieu.
Donc voilà, c'était la bande-annonce des choristes. Donc, c'est un film musical, on va dire. Ça parle des enfants dans un internat dans les années 80. Il se passe plein de rebondissements, mais l'histoire principale, c'est un proviseur très strict dans cet internat. Et un jour, il y a un nouveau professeur qui arrive, c'est monsieur Clément Mathieu. Il arrive et il décide de changer un peu les règles de l'école. Et ce professeur adore le chant. Donc, il se dit qu'il va implanter le chant dans les cours des élèves. Et du coup, ça leur plaît beaucoup. Il y a un personnage qui se met plus en avant dans ce film. Il s'appelle Morange. Donc, il s'avère qu'il chante très bien. Et du coup, ça lui va très bien dans ce film. Et du coup, il y a deux personnages principaux. Donc, Morange... Et Pépigno, un petit enfant qui, du coup, est à l'internat depuis un long moment, qui, tous les samedis, il va à la grille de l'internat et il pense que ses parents vont venir, mais en fait, jamais. Et du coup, le professeur le prend sous son aile pendant ce film. C'est un peu son chouchou, on va dire. Et pendant tout le film, c'est raccord. Il se passe des rebondissements, comme j'ai déjà pu le dire. Et donc, ouais, le but du film, c'est vraiment de...
Et toi, qu'est-ce que tu aimais?
Moi, j'adore l'époque, le style. Après, j'étais amoureuse à l'époque parce qu'il est sorti en 2003. Mais je ne l'ai pas... Enfin, bref. J'étais amoureuse de Morange, le personnage. Mais c'est un enfant qui a vraiment un visage d'ange. Et vraiment, il est attachant parce que sa mère, il a perdu son père. Et sa mère, elle est là, mais sans être là. Et, il est touchant, ce garçon. Et puis, il chantait bien, et voilà, quoi.
Et ça se passe en quelle année, du coup?
Dans les années 80.
Ok, d'accord. C'est dans un internat?
Ouais.
Mais le Morange, il s'appelle pas... C'est pas... il a pas, justement, un surnom de gueule d'ange?
Si, sur lui.
Ouais.
Et c'est une comédie musicale, ou...
Non, il y a beaucoup de chants dans le film.
Ouais.
Mais sans plus.
Ok, d'accord.
Mais les musiques, elles sont connues quand même.
Oui.
Des choristes, tout le monde. C'est un must-see à voir.
Oui, voilà, on peut dire ça comme ça.
Mais du coup, il n'y a pas vraiment de... On suit juste leur histoire, il n'y a pas vraiment de problème. Enfin, ils n'ont pas de...
Et après, il y a des enfants rebelles dans cet internat.
Ouais.
Mais oui.
On suit la vie de tous les enfants à l'internat.
À l'époque, dans cet internat.
D'accord. Ils ont quel âge?
Ils ont tous 13 ans maximum.
Ok, d'accord.
Mais même le professeur est super attachant.
Oui, aussi.
Ouais.
Il est gentil, il aide les enfants.
Ouais.
Il fait tout pour que ça soit meilleur. Ouais.
Donc toi, ce que t'as aimé, c'est de suivre ces enfants que t'as trouvé attachants, en fait.
Oui, voilà. L'époque, et puis la vie est simple. Enfin...
D'accord.
Moi, je voulais savoir s'il y avait une scène en particulier qui t'avait touchée, genre si t'avais une scène préférée dans ce film ou...
Alors,
pas spécialement.
J'adore, vers la fin, ce professeur qui est là depuis le début, il quitte l'internat parce qu'il est viré par le proviseur strict qui dit que sa méthode de travail, c'est pas la bonne. Et du coup, il s'en va. Sur la route, il y a tous les enfants, ils sont par la fenêtre et ils jettent tous leurs notes, leurs papiers avec leurs chansons qu'ils chantaient dessus en avion, avec des petits mots, je t'aime, des petits cœurs. Et ça, cette scène, elle est vraiment touchante. Et puis, du coup, il s'en va comme s'il partait rejoindre. Enfin, il repart.
Ouais.
Il rejoint son bus et après, il y a petit Pépignot qui arrive. Je vais venir avec toi. Et cette scène, voilà, je l'aime beaucoup.
Moi, par contre, j'ai une scène aussi que j'aime bien, que bon, c'est pas mon film, mais c'est à la fin, justement, il y a le... c'est le... comment dire, la fête de fin d'année, du coup.
Oui.
Je crois que c'est ça. Et du coup, qu'il y ait tout le monde qui se rassemble pour chanter, du coup, avec le professeur, je crois.
Oui, et il montre à une dame haut classée dans l'éducation.
Ouais. Du coup, moi, je trouve ça hyper touchant parce que tout le monde rechante comme ça, qu'il soit soudé, etc.
Oui, ça veut dire qu'il a bien fait son job. Clément Mathieu, qui s'appelle. C'est Gérard Jugnot qui joue ce personnage-là.
Oui.
Ok, d'accord. Tu connais le nom du réalisateur?
Non, pas du tout.
Non. Bon, très bien. Du coup, on passe au troisième film. Lou.
Donc, hello. moi, je vais vous présenter Avatar. Donc, je vous laisse avec la petite, longue bande-annonce. Donc voilà, donc ça c'était la bonne annonce de Avatar. Donc c'est un film qui est sorti le 16 décembre 2009 par le réalisateur James Cameron. C'est un film de fantasy. Alors en fait, je vais essayer d'être bref. C'est Jake Sully, c'est un ancien marine qui doit être transféré dans un corps d'avatar. Donc un avatar, c'est un personnage. Pour se rendre sur Pandora, donc c'est une planète qui contient un minerai très rare destiné à résoudre la crise énergique sur Terre. Donc voilà, c'est un film, je pense, assez connu, que la plupart d'entre vous ont vu. Il est assez long aussi, il dure 2h42, donc bon, faut tenir. Mais ça passe extrêmement rapidement vu qu'on est vraiment dedans. Donc c'est un film que je conseille beaucoup, beaucoup, parce que... au cours du film, on voit vraiment que la réalisation est très très bien faite et que ça a dû prendre un temps fou. Et d'imaginer tout ça entre le décor, les navis, donc les navis, bon, c'est les habitants de Pandora, c'est les grandes créatures bleues. Et ouais, du coup, c'est vrai que la réalisation a dû être assez compliquée et longue et dure pour les acteurs aussi, je pense, parce que ça a dû mettre plusieurs
années. Coûteuse aussi.
Comment ?
Et coûteuse aussi.
Ouais. et donc voilà, donc ouais, c'est un film de fantasy avec énormément de très beaux décors, très très beaux décors, qui fait un peu jungle, un peu mystérieuse, très bizarre, des animaux très très bizarres, des sortes de pumas mutants, ça c'est bizarre, mais c'est super bien, et donc voilà, voilà.
Moi j'ai une question. Je sais qu'à un moment dans le film ils sont en une guerre. Mmh. Et du coup pourquoi il y a cette guerre ?
Eh bien alors du coup c'est ceux qui veulent conquérir entre guillemets la terre Pandora parce que ça il y a un très rare minerai. Donc c'est pour ça qu'il y a une guerre parce que donc les navis, ceux qui habitent à Pandora, ne veulent pas que les humains détruisent leur terre en fait. Et c'est pour ça qu'il y a une énorme guerre qui éclate. Et leur village, enfin leur arbre maison, parce qu'ils habitent dans un immense, immense, immense arbre, est détruit par les humains pour recueillir ce minerai.
Et c'est un peu une comparaison avec ce qui se passe sur Terre.
Un peu, oui.
En Amazonie, tout ça, c'est une sorte de façon de montrer ce qui se passe sur Terre dans...
Ouais, je pense, ouais.
En façon science-fiction, quoi.
Ouais.
Un peu.
Et mais cette planète, elle est où par rapport à la Terre ?
À la Terre, oula. Je sais pas du tout, du tout. Je sais même pas si dans le film on le sait, mais je pense que c'est une sorte d'autre dimension. Où,
et ils y vont comment ? Ils y vont quoi ?
Ils y vont avec des avions militaires.
Ah ouais, c'est vraiment science-fiction.
Ouais, ouais, ouais.
Et bon, ça fait un peu longtemps que je l'ai vu, mais si je me rappelle bien, il y a une histoire d'amour aussi, non ?
Oui,
entre un humain et une navie, du coup.
Oui. Voilà, entre Jake Sully, le personnage principal, et une navie, donc une habitante de Pandora.
Et oui, donc ça, c'est important aussi à dire, parce que du coup, il tombe amoureux d'une habitante de cette planète.
Ouais.
Et je crois que du coup, ça va le faire réfléchir.
Tout à fait, parce que de base, ouais, Jake Sully, il est là pour vraiment recueillir le minerai et rien d'autre, pas avoir de lien avec les autres. Sauf qu'au fur et à mesure, en fait, il apprend à vivre comme eux, parce que la relation entre les navis, la terre, les animaux et tout ça, c'est super beau, en fait, et très sacré. Et au fur et à mesure, il tombe amoureux de cette vie, de cette planète, et de cette fille en question. Je ne sais plus le nom, il est assez compliqué, mais c'est vraiment un superbe film, vraiment, vraiment.
C'est un peu une sorte de Pocahontas,
bon.
Un peu.
Alors, ouais, on refait, un peu.
Oui, c'est vrai.
Avec plus d'effets spéciaux.
Ouais,
en fait.
Plus, ouais.
Mais surtout qu'en plus, dans la vraie vie, du coup, il ne peut plus marcher. Il est en fauteuil roulant.
Oui, tout à fait. Il est paralysé.
Et du coup, bah, en allant sur cette planète, il est beaucoup plus libre parce que bah, du coup, il est transformé en avis.
Ouais.
Et du coup, bah, il peut marcher, il peut sauter, il peut faire tout ce qu'il veut.
Ouais. Donc, je pense que ça, c'est bien pour lui.
Ouais. Et aussi, il y avait une scène qui m'a marquée. C'est quand ils sont dans une réunion avec du coup, tous les navis.
Mm-hmm.
Parce que il y a eu une mort. Et,
oui.
Et voilà, et du coup, c'est hyper beau. Et on voit le Jack Sully.
Ouais.
qui arrive sur le grand...
Turuk Makto. Alors, ça, c'est des grands dragons assez bizarres qu'il faut conquérir, dompter, voilà, très bien, dompter, en reliant leur tresse à un élément du dragon.
Ouais.
C'est super, ça aussi.
Et du coup, ben, en plus, oui, lui, il avait dompté un... C'était comme un oiseau, du coup, un dragon.
C'est un dragon.
Ouais. Et c'était celui que personne n'avait réussi à...
C'était très rare. Il n'y en avait qu'un seul dans toute la lignée qui avait arrivé, qui était arrivé à,
ouais,
à conquérir.
Et, ouais, et du coup, ben, lui, il est arrivé et...
Voilà.
C'était ça vraiment fait... hyper bien, cette
ouais,
scène.
Ouais, cette scène était trop bien.
Et toi, c'est quoi ta scène préférée?
À tout.
Ah, il y en a pas une qui...
Ah non, vraiment toutes, je crois que j'aime vraiment toutes.
Ah ouais.
Ou soit assis quand il apprend vraiment à vivre, à faire tous les faits et gestes, à chasser, à dire la prière avant de planter un couteau dans le cœur, à dompter ce dragon, c'est vraiment super beau. Surtout les liens entre la nature et les animaux et tout ça, c'est magnifique.
Mais c'est ça qui est intéressant, parce que du coup le personnage principal, je sais plus comment il s'appelle.
Jack Sully.
Voilà. Il se rend compte qu'au finalement, en apprenant à connaître ces gens-là, tout ça, il a plus envie de... Enfin, il a envie de laisser vivre chez eux, quoi.
Ben, c'est ça.
Et c'est ça, en fait. Enfin, le message est beau, quoi.
Ouais, ouais, ouais. Et d'ailleurs, il va avoir une suite de ce film.
ouais, tu as hâte.
Alors, oui, j'ai très, très hâte. Ça fait, je pense que... ça fait quelques années déjà qu'ils essaient de la sortir, mais je pense que, vu le temps de réalisation que ça met... ça va sortir normalement cette année ou l'année prochaine.
Mais je pense pas que ça sortira cette année ou l'année prochaine, moi. Parce que, je pense... Enfin, ils ont mis tellement de temps à réaliser tout ça, avec les cinémas fermés, qu'on on peut pas lancer un film comme ça, alors que les cinémas sont fermés. Donc, je pense qu'ils attendent que le monde reprenne, normalement, pour remettre ce film. Parce que ça fait quand même très, très longtemps qu'on l'attend.
Ouais, c'est vrai. Ça fait des années, ouais.
Voilà.
Voilà. On espère la suite rapidement, du coup.
Tout à fait.
Donc, du coup, je vais passer à mon film à moi, si vous avez plus de questions sur Avatar.
Bon.
Bon, ok. Alors, du coup, moi j'ai choisi American History X, que c'est un film que j'adore. J'ai vu il y a un petit bout de temps, mais du coup, voilà. Et on va voir la bande-annonce.
Écoute, je te l'avais dit, je veux que personne ne vienne me voir ici.
Je me fiche de ce que tu as dit, tu as...
J'essaie de m'en sortir comme je peux, et toi, tu viens tout compliquer.
Tu crois que tu es seul à être enfermé ici, Derek? Tu ne crois pas que je suis avec toi, moi aussi?
Sa mère avait mis ses espoirs en lui. Il est perdu. Tu ignores tout du monde dans lequel vivent tes enfants. Et son père, ses idées.
C'est partout autour de nous, maintenant.
Quoi?
Toutes ces revendications pro-nègres.
La race blanche va d'avant!
Tu vois ça? Ça veut dire que t'es pas le bienvenu.
Son frère voyait en lui un héros.
Moi, je te crois, Derek.
Lâche ton arme!
Derek, non!
Toute cette rage. Toute cette haine.
Mais qu'est-ce que tu as fait pour améliorer ta vie?
Derek Vignard est sorti de prison à 7h ce matin.
Alors mec, comment ça va?
T'es trop grand pour m'embrasser?
Ah, oh, je suis content de te voir. Vise un peu ça.
Quand t'as fait ça?
Quoi?
Je suis venu te parler de Danny. Il prend le même chemin que toi.
Un problème?
Laisse-le tranquille. Il pense que la tôle t'a fait changer d'idée.
C'est vrai.
Je te demande de faire l'impossible.
C'est ce qui va arriver? Je vais me faire planter par une bande de skinheads.
Je plaque tout. Et Danny, c'est la même chose. Et si tu t'approches une seule fois de ma famille, je te fais bouffer ton cœur.
Mais qu'est-ce qui t'arrive, Derek?
Je crois pas que tu réalises tous les changements qu'il y a ici. On est au moins 10 fois plus nombreux qu'avant que tu partes.
Ils sont après toi, maintenant. Ils vont pas me lâcher. Ils vont être tous sur moi, je peux rien faire. Mais Danny!
Viens, Derek!
Je t'aime, c'est toi mon meilleur ami. Je vais pas te dire ce que tu dois faire, mais je veux que tu comprennes.
Voilà, donc c'était la bande-annonce d'American History X. Et donc, comme vous avez pu l'entendre, on suit donc l'histoire de Derek, qui est un néo-nazi qui est vraiment raciste à 100% depuis la mort de son père, qui a été assassiné par des personnes noires. Et du coup, depuis ce moment-là, il est raciste, il est dans des groupes comme ça extrêmes. Et jusqu'au jour où, à son tour, il va également tuer des personnes noires qui essaient de lui voler sa voiture. Et il va être condamné à 3 ans de prison. Et quand il va sortir de prison, le film commence après cette scène d'intro, où on le voit donc du coup tuer ces personnes. Le film commence après sa sortie de prison, où son frère, en fait, va le prendre un peu comme modèle. Et il va devenir comme lui, en fait. Il est à fond racisme, tout ça. Et sauf que Derek, en fait, il est plus comme ça. En fait, la prison, ça l'a complètement fait changer d'avis. Les rencontres qu'il a fait là-bas, quand il ressort, il veut plus de cette vie. Il veut se débarrasser de son passé, en fait. Et vu que toute sa famille, toutes ses connaissances, c'est des gens qui sont comme lui, racistes, tout ça, il veut essayer de changer ça. Et ça va pas être facile. Et du coup, pendant le film, on va avoir des flashbacks de son passé, de son passage en prison, tout ça. Et on va un peu mieux comprendre pourquoi il est devenu comme ça et qu'est-ce qui l'a fait changer d'avis. Et c'est super intéressant parce que du coup, on voit un peu l'autre côté du racisme. En fait, on voit les racistes. C'est une manière différente d'aborder ça. Et voilà, j'ai trouvé ça super intéressant.
Et du coup, qu'est-ce qui lui a fait changer d'avis en prison ?
Ben en fait, en prison, il y a un peu toutes les communautés. Donc, il va rencontrer des personnes, des blancs comme lui, qui sont dans des sectes, tout ça, à fond nazi, tout ça. La communauté noire, tout ça. Et en fait, il va y avoir des incidents qui vont se passer. Je peux pas trop raconter parce que ce serait un peu du spoil du coup, mais il va pas être d'accord avec tous les blancs là-bas. Il va. Il y a des histoires qui vont se passer qui vont le faire. Faire changer d'avis. Il va surtout faire la rencontre d'un prisonnier noir qui va devenir ami avec lui, tout simplement. Et en fait, il va tout simplement se dire, on a les mêmes passions, tout ça. Il parle de sport à un moment, tout ça. Et ça devient vraiment son ami. Il se dit, ils sont comme moi, alors que les blancs, en fait, ça dépend pas de leur couleur, tout simplement. Mmh. Et du coup, il va changer d'avis un peu comme ça. Après, il faut voir tout ce qui se passe en prison. Donc ouais. Voilà.
Mais du coup, on voit aussi cette facette de l'amitié. Enfin, on voit du coup le film par rapport au racisme et aussi cette amitié qui s'est liée du coup en prison. En gros, on voit l'évolution de l'amitié, etc.
Ouais, voilà, on voit l'amitié qui se crée et puis comment ça le fait changer d'avis. Il y a un truc que j'aime bien dans le film, c'est qu'en fait, les moments dans le passé, les flashbacks, ils sont en noir et blanc. Et les moments dans le présent, après qu'ils soient ressortis de prison, c'est en couleur.
Et je trouve on voit bien la distinction.
Voilà, donc déjà ça aide à voir la différence. Puis en plus, je trouve que c'est une belle manière de dire genre, le passé, il voyait la vie en noir et blanc.
Ah ouais.
Noir et blanc. Et maintenant qu'il est ressorti, il voit un peu le monde comme il est vraiment.
Avec toutes ses couleurs.
Avec toutes ses couleurs, il peut vivre sa vie.
Ouais.
Voilà. Après, le film, on suit surtout sa relation avec son frère, qui du coup, lui, il comprend pas qu'il est changé.
Ouais.
Et du coup, voilà, c'est le film, ça va être ça surtout.
Et au début, j'ai pas très bien compris. Donc, le personnage principal, il est comme dans une secte, en fait, contre du racisme.
Il est dans un groupe de néo-nazis, quoi.
D'accord.
Qui vont, okay. On voit dans le film, ils vont faire des cases dans des magasins d'asiatiques, je crois. Enfin, tout ce qui.
Mais du coup, c'est un racisme ciblé envers les noirs ou envers toutes les autres communautés ?
C'est suprématie blanche.
Ouais, donc.
Que les blancs, en fait.
Ouais.
Plutôt, ouais.
Ok, d'accord.
Ouais.
Moi, j'ai une question qui pourrait aussi s'appliquer au film d'Amel.
Oui.
Est-ce que tu penses pas que c'est hyper important de voir ce genre de film, surtout dans les contextes actuels, par exemple, avec tout ce qui s'est passé autour de BLM, les suprémacistes blancs qui ont pris le Capitole, tout ça. Est-ce que tu penses pas que c'est hyper important d'avoir des films en lien avec la haine et comment la haine se crée ?
Ouais. Ben après, je sais pas si on montre ce film à quelqu'un qui est comme Derek dans le film, qui est raciste, tout ça, je sais pas si ça le ferait changer d'avis. Je pense pas, je pense que c'est plus compliqué que ça.
Non, peut-être réfléchir, bien sûr, ouais.
Mais
moi, je voulais plus parler par rapport aux gens qui sont pas encore complètement politisés ou qui juste s'intéressent pas trop à ça en général, mais pas forcément les suprémacistes.
les jeunes, par exemple.
Oui, par exemple, ouais.
Je pense que ça peut influencer, en vrai. Ça peut te faire prendre... te rendre compte de choses, ouais, voilà. Donc je pense que c'est un bon film, vraiment, parce qu'on voit, du coup, l'autre côté, un peu. On se met à la place d'un raciste, tout simplement, et on voit, dans sa vie, en fait, il s'engueule avec sa mère à cause de ça, il se fait jeter dehors parce qu'il accepte pas son nouveau beau-père, parce qu'il est juif, je crois. Et on voit, en fait, ça, dans sa vie, ça le pénalise, lui aussi, beaucoup, quoi.
Mais moi, pour répondre à ta question, Louise, aussi, on se fait notre avis et notre caractère en fonction de ce qu'on voit. Donc forcément, si on voit de bonnes choses, ce film-là, comme ce film-là, vraiment, du coup, forcément, ça va nous aider à penser autrement et penser meilleur, peut-être, que si on voyait des mauvaises choses, des trucs sur le racisme, qui sont pour le racisme, justement. Et ben forcément, peut-être qu'on n'agisserait pas pareil.
Non, c'est sûr, mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que du coup, ça rejoint un peu l'évolution du personnage du film.
Oui, voilà.
Qui est enfin, en fait, ça montre que c'est vraiment ton environnement qui te conditionne à réagir d'une façon ou d'une autre.
Ouais, c'est vrai que si ça se trouve, peut-être qu'il ne serait pas parti en prison, il serait encore dans cette suprématie.
Ouais, voilà. Ouais. Puis c'est tout son passé, c'est son père qui est mort, assassiné comme ça, enfin c'est... plein de choses qui le rendent comme ça, et puis...
Après, faut pas faire une généralisation des Noirs, enfin, cas, parce que c'est pas forcément un Noir qui a tué son père.
Oui, justement, mais...
Oui, voilà.
Oui, parce que justement, le film te le montre, après, il devient ami avec un Noir, et il se dit, ben voilà, en fait, c'est bon, quoi.
Ouais.
Donc, voilà. En vrai, je le recommande, parce que moi, j'ai vachement aimé ce film. Bon, après, il y a quelques scènes qui sont un peu violentes, tout ça, mais...
Et ça montre bien les choses. Voilà. Quand c'est violent, ça montre bien la réalité des choses.
Donc voilà, c'était... c'est la fin de cette émission.
Oui.
Si vous voulez rajouter quelque chose, dire quelque chose...
Non.
Dire au revoir. Non.
Moi, je voudrais vraiment vous remercier pour cette première émission. J'ai trouvé ça génial et très intéressant. Merci.
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 À bientôt, les infiltrés.
À bientôt.
À
la prochaine.